Jess est avec nous en ligne. Bonsoir mon cher Jess, vous allez bien? Ça fait longtemps?
Bon, oui, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Oui,
content de vous entendre.
Vous-même.
Eh bien,
je
vous donne la parole, mon cher Jess, si vous avez une question à
je
poser.
Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, en vous écoutant, il m'est venu quelques idées, notamment au début de l'émission. C'est-à-dire que je ne vais pas ramener la couverture à moi, si j'ose dire. J'allais dire couverture sociale. Je vous explique. Moi, je suis dans une situation sociale compliquée. J'ai cru comprendre, Monsieur Fourchet, notamment, que vous défendiez le service public, l'idée du service public, les droits sociaux, et moi j'en suis le premier bénéficiaire. Je vais vous expliquer très vite ma situation. Moi j'ai une rupture de vie depuis 7 ans, et je me suis retrouvé, entre guillemets, quasiment à la rue, colocation économique, en situation de handicap, 956 euros pour vivre. Je suis sur Paris, j'ai droit à ce qu'on appelle le Paris Pass Accès, c'est-à-dire les métros RATP, SNCF gratuits de l'Île-de-France, d'une part, et d'autre part, l'accès, notamment à la piscine. Je suis comme Yann, moi je vais souvent à la piscine, et je vais à la piscine gratuite. Sauf que là, j'ai fait un procès d'allô, et j'ai une fierté, et là je m'adresse à...
Un quoi? Vous avez fait quoi? Un quoi? Un procès quoi?
J'ai fait un procès au droit au logement opposable.
Ah pardon.
C'est-à-dire que pour faire valoir mes droits, j'ai fait un procès contre la préfecture de Paris, de France, pour faire valoir mes droits au logement. Puisque j'ai constaté une carence, j'ai bac plus 5 en droit, même si c'est vieux, j'aurais dû être avocat, je ne l'ai pas fait pour X raison. Donc au moins que ça me serve à quelque chose, j'ai gagné le procès au bout de à peu près 4-5 années. Et là, on vient de m'attribuer, il faut que je déménage très vite d'ailleurs, mais ça c'est autre chose, on vient de m'attribuer un logement à Courbevoie, dans les hautes de...
En
petite couronne. Ah. Et écoutez bien le truc, parce que ça, j'ai failli refuser. Mais je me suis dit, si je refuse, je vais me retrouver dans des problèmes, parce que j'ai téléphoné aux services sociaux des Hauts-de-Seine, et on m'a dit, vous n'aurez plus droit, vous n'avez pas les mêmes droits que sur Paris, vous n'aurez pas la gratuité des transports, et si vous êtes en situation de handicap, il faut que vous soyez jugé, tout le monde n'est pas bon, que vous soyez catégorisé invalide. Or, je ne suis pas invalide, ça voudrait donc dire, en première approximation, que je perdrai les droits sociaux. C'est-à-dire qu'en termes d'équilibre de vie, d'équilibre économique, je suis perdant. Alors qu'à Courbevoie, j'ai trouvé un logement qui est tout neuf. Il a été livré le 15 décembre. En d'autres termes, pour faire très court, parce que je vous dis, mon cas individuel peut valoir d'exemple, c'est que je suis pris par des effets de seuil, de piège, et j'avais des droits sociaux sur Paris relativement importants, et je me retrouve en petite périphérie, petite couronne, dans un endroit calme, réputé, logement neuf, hein, mais je vais devoir affaire à des dépenses
plus
grande et énorme.
Alors,
vous voyez ce que je veux dire très,
oui, très bien.
J'essaie d'être bref et clair.
Non, mais c'est très bien. Alors, on va d'abord demander à Thomas ce qu'il pense de votre affaire, et ensuite à Arash Dernbarch, parce qu'il est concerné.
On peut commencer par Arash.
Par Arash, qui est concerné par la ville de Courbevoie de très très près.
D'abord, je vous salue, monsieur, et puis on peut encore souhaiter la bonne année.
Je vous la souhaite.
Merci beaucoup. Je vais vous dire quelque chose qui, pas à vous, hein, mais qui ne va pas faire plaisir à certains. Le système du logement social en France est un vrai scandale. Je vous le dis.
Oui.
Il y a des gens qui ont des logements qui se sont enrichis dans l'intervalle et qui donc n'ont plus aucune raison d'être dans un logement social, mais ils s'y maintiennent.
Même des politiques. Hein.
Bien sûr. Surtout des gens qui ne méritent pas et qui ne doivent pas y rester. D'autres doivent y accéder. Je pense notamment à des femmes battues. Je pense notamment à des mères donc, qui ont 3 enfants. Des personnes qui attendent depuis 10-15 ans et qui n'y ont pas accès. Alors on crée des artifices, des dallos, on crée vraiment des artifices. Vraiment, la France est vraiment la championne du monde pour créer ce qu'on appelle des artifices, des procédures.
Non, vrai,
tout ça, en réalité, c'est de la poudre aux yeux. Au lieu de créer un réel droit à l'accès au logement et de faire un audit complet, mais on ne veut pas le faire, parce que c'est politiquement incorrect, parce qu'on a peur de perdre des électeurs, parce qu'on a peur de mettre la main dans le cambouis et de dire les vérités. Ceci, voilà, ça a été dit. Et moi, je vous le dis parce que je fais mes permanences, notamment, où une fois par mois ou tous les 2 mois, en tant qu'adjoint maire, je reçois, je ne suis pas en charge des logements sociaux, mais c'est un turnover, on tourne entre adjoint et maire, et donc on reçoit les personnes qui sont dans les demandes. Et donc, je peux vous le dire, je suis en première ligne souvent sur ces dossiers-là. Et ça, c'est un des vrais scandales. Maintenant, sur votre accès, monsieur, je vais vous donner un deuxième scandale. C'est que vous, lorsque vous méritez d'avoir un logement, parce que la France a encore cette possibilité de permettre à des gens de pouvoir se loger, ce qui est quand même une marque d'une grande démocratie, parce que le social, c'est pas un gros mot, et c'est pas ce que j'entends souvent, parfois dans ma famille politique, c'est pas de l'assistanat. Voilà, la sécurité du logement, c'est quand même un droit qui est la première chose avec manger. On mange et on se
loge. Je reviendrai d'ailleurs sur votre chapitre aide sociale qui est très pertinent.
Et c'est pas de l'assistanat, et j'aimerais qu'on rebondisse dans deux secondes sur ce qu'a écrit Thomas, parce que je sais ce qu'il a écrit. Non, mais j'ai lu
pour moi, c'est une des meilleures entrées
bien
du
bien sûr, mais j'ai lu son livre. J'ai lu son livre, bien sûr. Je ne viens pas dans une émission sans lire son bouquin. Donc, on partage des tas d'idées ensemble. Ce n'est pas parce qu'on partage des idées, d'ailleurs, qu'on partage des idées politiques. Bon, et la dernière chose, monsieur, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je ne comprends pas. Vous venez d'où, pardon ? Je n'ai pas compris.
Il est de Paris, Jess.
Vous êtes de Paris. Vous voyez, la ville de Paris ne fait pas son travail. Voilà, je vais vous le dire franchement. Il y a des gens qui ne méritent pas d'avoir un logement à Paris et on renvoie votre procédure vers les Hauts-de-Seine.
Oui, c'est quand même bizarre. On l'expulse de Paris, d'une certaine manière.
On vous a expulsé de Paris. Voilà, je le dis comme je pense.
C'est l'expulsion.
J'ai pas envie d'ailleurs de me prendre une plainte pour diffamation.
Mais c'est une forme d'expulsion qui ne dit pas son nom.
C'est une forme de répudiation. Je vais me dire ça. Pourquoi ? Parce que les petits et les plus pauvres sont chassés de Paris. On va dire la vérité. Ils sont chassés même sur la première couronne, la deuxième. Et aujourd'hui,
oui, enfin, on peut même aller plus loin parce qu'en province, à cause du Covid, maintenant les prix augmentent.
Sûr.
Il y a des gens qui ne peuvent même plus habiter là où ils ont
plus
habité. Le mètre
carré a augmenté partout. Oui. La réalité, c'est qu'on est en train de créer ce qui est exactement. Moi, j'avais vu un film qui était fabuleux avec Justin Timberlake, Time Out. C'est-à-dire que vous avez créé des strates. Et ce film, je le dis à tous vos éditeurs, voyez-le. C'est un film qui était extrêmement novateur où on avait créé des zones. Et pour pouvoir passer dans les zones plus riches, c'est-à-dire le centre, il fallait payer du temps de vie. Donc l'argent était transformé en temps de vie. Vous, monsieur, on essaie de vous repousser le plus loin possible. Alors là, vous êtes à Courbevoie. Je touche du bois, ça reste encore une belle ville, parce que c'est le quartier d'affaires. Mais à moyen long terme, les gens qui ont de moins en moins d'argent vont commencer à être de plus en plus loin.
Il y a une dame qui me demande qui est en train de parler. Alors je lui dis, réponds, c'était Arash Darenbarch qui est avocat et qui est
adjoint au
maire de Courbevoie. Donc il avait une sorte de légitimité à le faire. Ah, oui. Thomas, vous voulez rebondir ?
J'ai rien à dire de plus.
Bah alors, moi, je vais quand même dire quelque chose. C'est le passage, l'entrée aide sociale de votre livre. C'est très intéressant. À en croire les commentateurs, ces aides seraient un gouffre financier incitant les personnes vulnérables à la paresse. Pourtant, à y regarder dans le détail, ces aides ne représentent environ que 70 milliards, soit 3% du PIB, dont 13 milliards pour les personnes handicapées, 17 pour les minima sociaux, 18 pour les allocations logement, 9 pour les prestations familiales sous conditions de ressources, 8 d'aide locale et 5 pour la prime d'activité. Rappelons que les prestations sociales, où sont ces 3 retraite et chômage, représentent 70% du revenu des ménages du premier décile, c'est-à-dire les 10% des ménages les plus pauvres. Oui. Mais ces chiffres sont très importants.
Ben oui. Et ils finissent où ces chiffres ? Ils finissent pas sur un compte en Suisse. Ils finissent dans l'activité, ils sont dépensés totalement.
Mais bien sûr, et on oublie tout le temps de le dire ça.
Mais voilà, donc c'est
les profiteurs, je mets 1000 guillemets, on oublie que ce sont aussi des gens qui permettent la croissance.
Bah, tout à fait. Donc en fait, c'est un système finalement qui est assez intelligent parce que c'est de l'argent qui passe de main en main et qui refinit qui retourne dans le circuit. Voilà, réinjecté. Donc c'est une bonne chose.
C'est quand même quelque chose qu'on peut redire et marteler, c'est-à-dire que. Pour ceux qui sont crispés toute la journée par les avantages sociaux qu'auraient des gens défavorisés, qu'ils se mettent une bonne fois dans la tête que l'économie a une longueur d'avance, une sorte de la ruse ruse de la raison économique, qui est que c'est comme les gens qui ont inventé les congés payés. Il y a un système vicieux dans le capitalisme qui est repose-toi, camarade, comme ça tu seras beaucoup plus performant une fois reposé.
Exactement.
C'est toujours ce principe.
Et puis quand tu te reposes, maintenant tu consommes en plus.
En plus, tu consommes. Oui, il y a ça.
Voilà. Et n'oublions pas que la France, en fait, le pilier de sa croissance, c'est la consommation. C'est pour ça que là, vous voyez, quand le pouvoir d'achat des Français baisse, là, on a parlé de l'inflation tout à l'heure, quand on refuse d'augmenter les salaires, les premiers qui sont impactés, ce sont les petites PME, les commerces de proximité, etc. Parce qu'eux, ils n'exportent pas à l'autre bout leurs produits. Donc, c'est le boulanger du coin, l'artisan du coin, etc., qui va être impacté par ça.
Et donc, les finances de l'État aussi, ensuite, in fine. Puisque...
Tout à fait. Et les finances de l'État et même l'emploi. Les gens, ça marche moins, ils emploient moins, etc.
J'ai une question à vous poser. Le PIB, on en parle sans cesse.
Ouais.
Est-ce que vous pensez que le fameux produit intérieur brut est une manière qui n'est pas un peu datée pour essayer d'apprécier, de photographier, d'appréhender la situation d'un pays. Est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose, j'allais dire, peut-être de moins bête et méchant, de moins quantitatif pour apprécier qualitativement les choses ? Ou est-ce que ça relève de la chimère ?
Non, non, c'est un débat. Enfin, il y a une entrée PIB d'ailleurs.
Oui, pour être honnête, celle-là, je ne l'avais pas lue.
Grosso modo, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, même Nicolas Sarkozy, après la crise, il s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème avec le PIB. Il a fait une commission avec Amartya Sen, Fitoussi et Stiglitz. Qu'on produit un super rapport où ils ont dit voilà, on ne peut pas avoir que ça comme indicateur, il faut d'autres indicateurs.
Le bien-être.
Et voilà, et puis c'est tombé à l'eau, on n'en parle plus. Et donc là, on reste encore sur le PIB. Et moi, j'irais même plus loin, on est dirigé par des gens maintenant qui ne regardent que les indicateurs.
L'IDH, me dit Benoît.
Alors, l'IDH, c'est pas mal, mais on n'en tient pas compte beaucoup. Hein. L'IDH, c'est pas mal.
Rappelez-nous ce que c'est que l'IDH.
L'indice de développement humain, c'est-à-dire que ça prend d'autres critères de bien-être, mais c'est. On n'entendra jamais quelqu'un vous dire l'IDH a augmenté en France. On entend le PIB a augmenté, on a créé tant d'emplois, etc.
Ça sonne trop hippie, quoi, l'IDH.
Ben oui, voilà, c'est ça. Non, alors que
c'est pas reconnu à l'international.
C'est reconnu à l'international, mais c'est plus utilisé pour les pays pauvres, l'IDH. Mais c'est quand même
il y a un peu de condescendance, peut-être aussi, dans cette façon de.
Et puis c'est comme c'est orienté plus sur le bien-être, l'accès à la santé, l'illettrisme, etc. Ça n'intéresse guère, ça intéresse moins les gens que le PIB. Alors que le PIB, bon, a beaucoup de limites. Hein,
ça oui, mais philosophiquement, le PIB, ça dit quand même quelque chose de très fort.
Ouais,
c'est-à-dire que
sûr.
Ce qui intéresse, c'est ce qui est chiffrable.
Voilà.
Et dès lors que quelque chose n'est pas chiffrable, ça n'existe pas vraiment.
Le bénévolat n'existe pas.
Exactement. C'est pourtant un facteur très important dans
très
une
important.
Société.
Ben voilà. Et même les aidants, de manière générale, vos parents qui gardent vos enfants, etc., ils ont une activité. On dit qu'ils ne sont pas d'activité. Si, ils ont une activité. Ils gardent vos enfants.
On a beaucoup d'auditeurs, mon cher Thomas, qui font du bénévolat. J'allais dire, d'abord par altruisme, et aussi, il ne faut jamais l'oublier, d'une certaine manière, par égoïsme, pour donner un sens à leur vie.
Bien sûr.
Mais tout ça, c'est des calculs complexes qui font que le bénévolat est quelque chose humainement de très important et de vital pour la personne humaine.
Quelqu'un qui est bénévole dans une association sportive, moi, quand je faisais du sport, c'est que des bénévoles. Bah, heureusement qu'ils sont là. Hein. Et pourtant, là, ça ne rentre pas en compte.
Vous l'avez vu, Yann, vous-même, d'ailleurs, parce que quand vous êtes venu faire les maraudes.
Oui.
Vous l'avez vu avec l'association, il y a des tas de bénévoles.
On a été faire des maraudes d'ailleurs en direct sur Europe 1, à la Défense avec Arrache qui distribue des. Là aussi, c'était un scandale que de la nourriture soit mise aux ordures plutôt qu'être redistribuée à des gens qui n'ont pas à manger en France.
Et vous voyez, vous avez pointé du doigt tout à l'heure l'aberration du système. Parce qu'en réalité, on peut condamner un système libéral tout en étant de droite. C'est pour ça que je préfère vraiment. Parce qu'à un moment donné, un jour, il faudra qu'on impose le débat là-dessus.
Et ensuite, Maxime.
Quelles sont les droites ?
Nous rejoint.
Mais vous voyez, ce système a été mis en place. Pour créer une pauvreté, pour créer en fait de l'assistanat, un besoin et une forme de soumission.
Je ne sais pas s'il y a une intention, ça c'est un vrai débat en économie. Ça c'est quelque chose plus presque philosophique. Est-ce qu'on peut considérer, parce que Victor a effleuré le sujet tout à l'heure, quand il parlait de. Il dit que c'était comme tout ça était artificiel et de la main de l'homme, la fameuse main aussi invisible, mais est-ce qu'on peut considérer que le système est aussi. Pressillant que ça, aussi cynique, aussi intelligent, aussi calculateur. Ou est-ce que c'est des régulations qui ont fini par se faire sans forcément cynisme, mais par habitude d'une société qui ne laisse plus penser autre chose que cette façon de réguler une économie, c'est-à-dire par le capitalisme, par la consommation. Vous comprenez la question ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a à la base... En tout cas, chez mes confrères, beaucoup d'économistes qui sont persuadés d'avoir la pensée juste... Et que sur un petit papier, tu peux augmenter la taxe carbone de temps, ce sera bien pour le climat, mais ils ne se rendent pas compte que les gens, derrière, ils souffrent et qu'ils vont mettre un gilet jaune et qu'ils sont prêts à aller tout casser. Et que tu vas mettre 62 ans, tu barres, tu mets 65 ans et que tout va bien se passer.
C'est juste
alors qu'en fait, tu as des gens qui n'en peuvent plus. Quoi. Les études de terrain vous montrent qu'il y a 50% des salariés qui vous disent qu'ils sont incapables de faire le même emploi après 60 ans.
Mais
alors là, vous changez, là, les mecs, vous allez... Donc ça, il y a ça. Et puis après, il y a aussi les lobbies.
Merci.
Y a les lobbies.
C'est ça que je veux dire, parce que...
Intéressant, je vous écoute.
Ça, pour moi, c'est le point fondamental.
Bien sûr.
C'est la clé de voûte de tout le débat. Depuis le début, on parle économie théorique. Mais il y a un point qu'on ne ramène jamais dans les débats, c'est qui a intérêt à détourner la théorie pour amener vers une autre forme de réalité. La réalité, c'est que vous avez derrière chaque forme d'économie, chaque résultat socio-économique, un lobby qui a un intérêt. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Yann. C'est qu'il y a un intérêt.
Numérique, hein.
Toujours.
Montrer des photos de soi et
toujours.
Tout ça, ça profite à quel
niveau ? Sur les santé environnement, sur le sport, sur le pouvoir d'achat. On l'a vu d'ailleurs. Moi, je l'ai dénoncé au début sur le gaspillage alimentaire. Vous avez la grande distribution qui gagnait de l'argent en jetant de la nourriture dans les poubelles. qui gagnaient de l'argent, tenez-vous bien, je ne le répéterai jamais assez, en jetant de la nourriture, parce qu'ils imposaient sur un cahier des charges, dans les petites communes, ils ont 80% notamment de la distribution, ils imposent aux petits producteurs l'achat à tout très bas prix, ils le revendent le double, et lorsqu'ils jetaient cette nourriture-là, ils gagnaient de l'argent, non pas sur le prix d'achat, mais sur le prix de vente qu'ils doublaient. Donc ils gagnaient de l'argent sur un système vicieux où ils gaspillaient de la nourriture. Mmh.
C'était plus rentable de jeter que de distribuer ouais,
exactement,
gratuitement.
Pour les supermarchés.
Ça, non, mais ça en dit très long, mais moi cette histoire d'arrache et de gâchis alimentaire, elle me plaît beaucoup, elle me désole, mais elle me plaît beaucoup parce qu'elle permet, en un raccourci très facile à comprendre, de montrer toutes les aberrations du système.